dessous de l'infox, Sophie Malibeau.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'infox. Un flux d'infox hors normes sur des incendies hors normes à Los Angeles. Comment expliquer le phénomène? Quel impact sur le débat public à propos du réchauffement climatique aux États-Unis à quelques jours de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? On en parle dans un instant avec François Gemène, spécialiste de la gouvernance du climat. Les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, cela se joue aussi sur les réseaux sociaux et nous verrons avec Kaofi Souhi de l'AFP Factuel comment la désinformation tente de s'immiscer dans la crise. Mais tout de suite, on retrouve Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI pour un fact-check intéressant des images trafiquées que l'on a tous vues circuler sur les réseaux sociaux au sujet des incendies en Californie avec à la clé une instrumentalisation de la catastrophe. La situation reste dangereuse à Los Angeles sur le front des incendies. Selon le dernier bilan, au moins 24 personnes ont trouvé la mort. Les dégâts matériels sont énormes et la gestion de la crise d'autant plus difficile que la désinformation est massive sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
L'origine de ces incendies, le travail des pompiers, les rescapés, rien n'échappe à la désinformation. On ne manque pas d'images authentiques et impressionnantes. Pourtant, parmi les plus partagées, certaines sont fausses ou sorties de leur contexte.
Oui, si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux ces derniers jours, vous êtes probablement tombé sur l'une de ces deux images aériennes montrant une maison au toit rouge, prétendument épargnée par les flammes. Tout le quartier semble avoir été détruit, sauf ces luxueuses résidences. Si les deux maisons se ressemblent, ce ne sont pas les mêmes. L'une est en bord de mer, l'autre en pleine ville. Les internautes qui partagent ces photos en sont persuadés. Elles montreraient, je cite, « la maison d'un croyant de Los Angeles miraculeusement protégée par Dieu ». Un récit sur lequel plusieurs auditeurs nous ont alertés.
Oui, sauf que ces deux images n'ont rien à voir avec les incendies en cours à Los Angeles.
Non, la première photo est bien authentique, mais elle n'a pas été prise dans la Cité des Anges. Une recherche par image inversée permet de retrouver sa trace dans la banque d'images de l'agence France Presse. On y apprend, en légende, qu'elle montre une maison dans le quartier de Lahaina à la suite des incendies mortels à Hawaï en août 2023. La résidence avait été épargnée notamment grâce à sa toiture en tôle épaisse et à l'absence de végétation à proximité.
Et qu'en est-il du deuxième cliché?
Eh bien, si visuellement tout semble vrai, l'image a en réalité été générée par une intelligence artificielle. Le seul moyen de s'en rendre compte, c'est de faire une recherche par image inversée sur Google, puis d'aller dans l'onglet « À propos de l'image » à droite. Un message apparaît alors indiquant « Image créée avec l'intelligence de Google ».
Alors dites-nous, comment Google sait-il que quelqu'un a généré cette image avec son intelligence artificielle?
Alors pour son outil de génération d'images baptisé Imagen, la firme américaine utilise ce que l'on appelle des watermarks, des filigranes invisibles à l'œil nu mais identifiables par un logiciel. Ce tatouage numérique atteste donc de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais attention, sans faire cette démarche de vérification, il est impossible de s'en rendre compte.
Oui, et puis on peut dire que cette image synthétique fait l'objet de nombreuses instrumentalisations.
Oui, religieuse d'abord, avec de nombreux messages parlant d'une intervention divine. Certains affirment à tort que cette maison appartenait à une famille chrétienne, d'autres à une famille musulmane. Et puis certains complotistes ont aussi diffusé cette image, assurant que l'incendie était volontaire et ne ciblait que certaines habitations. Deux récits trompeurs vus des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux. Et résultat, cette infox figure aujourd'hui parmi les images les plus vues concernant les incendies de Los Angeles. On est donc là face à un énième exemple de détournement de l'IA qui perturbe les perceptions d'un événement mondial et invisibilise les vraies images de la catastrophe.
Merci Grégory Genevrier. Alors cette chronique se trouve sur le site de RFI ou sur l'appli RFI Pure Radio avec les liens, les images et toutes les étapes de la vérification.
On en parle.
Bonjour François Gemène.
Bonjour.
Vous enseignez à HEC, Sciences Po et la Sorbonne en tant que spécialiste de la gouvernance du climat. Alors en préalable à nos interrogations sur ce qui se passe actuellement en Californie, en quelques mots, qu'est-ce que cela signifie la gouvernance du climat, votre domaine de compétence?
Eh bien, il s'agit à la fois d'étudier comment nous allons pouvoir gouverner la transition, mettre en place des politiques de décarbonation de nos économies et aussi comment les sociétés sont affectées par les impacts du changement climatique et notamment les incendies et les catastrophes climatiques.
Alors, les incendies en Californie, ça continue depuis au moins une semaine. Beaucoup de théories circulent, des théories conspirationnistes. Comment est-ce que vous expliquez ce déversement de fausses informations alors que beaucoup d'images authentiques circulent sur cette catastrophe hors norme, il faut dire?
Eh bien, comme toute catastrophe, elle va générer énormément de bruit médiatique, elle va générer énormément d'images, elle va générer aussi énormément d'émotions et de réactions. Et souvent, après une catastrophe, les victimes ont besoin de trouver des coupables, de pouvoir identifier ce qui a causé la catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que le discours sur le changement climatique est souvent inaudible pour les victimes de catastrophes, parce qu'elles ont besoin de trouver des coupables. Et si on dit c'est le changement climatique, c'est en quelque sorte comme si on leur rendait elles-mêmes responsables de leur situation. Et donc cette recherche du coupable, elle est évidemment propice à la génération de théories du complot, parce qu'on va chercher à trouver comment une telle catastrophe a pu se produire.
Il y a déjà des théories qui circulent sur le déclenchement de la catastrophe, le déclenchement des incendies. Comment faire la part des choses? Qu'est-ce que l'on sait à ce stade de ce qui a pu déclencher de tels incendies du côté de Los Angeles?
Alors, il faut rappeler que, en règle générale, environ 90% des incendies sont des incendies déclenchés par accident ou intentionnellement. Et donc l'origine de la plupart des incendies est accidentelle ou criminelle. Dans le cas, effectivement, des incendies de Los Angeles, il semblerait, et je parle évidemment au conditionnel, l'enquête fera la lumière là-dessus, il semblerait que ça soit une ligne haute tension de la compagnie Edison qui ait été renversée par le vent et qui, en tombant, ait provoqué un court-circuit qui a mis le feu aux broussailles, aux brindilles. Et puis, naturellement, les conditions climatiques ont fait que l'incendie s'est propagé très très rapidement, puisqu'il faut rappeler que Los Angeles n'avait pas connu de précipitations significatives depuis mai 2024. Donc depuis 8 mois, il était tombé 12 pouces de pluie à Los Angeles, c'est-à-dire à peu près 5 mm, et que par ailleurs, il y avait des vents chauds, secs et très violents qui ont évidemment favorisé la propagation de l'incendie qui s'est parfois propagé à une vitesse de 7 km à l'heure, c'est-à-dire une vitesse de marche rapide.
Dans les théories conspirationnistes qui circulent, on incrimine les globalistes. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela montre de l'hostilité d'une partie de la population aux politiques de lutte contre le réchauffement climatique?
On sait que la société américaine est une société particulièrement polarisée et polarisée entre deux camps politiques qui sont souvent d'ailleurs caricaturés, entre un parti républicain qui est devenu aujourd'hui, il faut le dire, sous la férule de Donald Trump, un parti d'extrême droite, et le parti démocrate qui serait considéré en France comme un parti, disons, de centre droit. Et on sait qu'il y a une polarisation très forte et véritablement on en vient à considérer ces adversaires politiques comme des ennemis qui vous veulent du mal et qui veulent nuire au pays. Et on considère que dans chaque camp, on considère que le camp adverse veut nuire au pays et veut détruire le pays. Et donc, dans cette perspective, effectivement, les conservateurs du Parti républicain, qui évidemment ont le vent en poupe en ce moment, puisqu'ils viennent de remporter les élections, considèrent que c'est potentiellement une catastrophe qui a été causée par l'autre camp politique. Et en réalité, on voit ça très souvent lors de chaque catastrophe. On imagine qu'il y a une sorte de machination ourdie en haut lieu par une sorte d'élite mondiale qui, en quelque sorte, créerait des catastrophes pour s'abattre sur les gens. De la même manière qu'avant le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, on croyait volontiers que les catastrophes étaient envoyées par Dieu pour punir les hommes.
C'est nuisible pour le débat public?
C'est évidemment nuisible pour le débat public. Et moi, je considère la désinformation comme peut-être le plus grand danger qui menace nos sociétés, comme un danger potentiellement plus grand encore que celui du changement climatique. Parce que si vous n'avez plus une base d'informations commune, vous en arrivez à vivre dans des réalités complètement différentes et donc vous n'avez plus de socle commun sur lequel construire des consensus politiques, sur lequel construire des politiques publiques. Et là, on est vraiment dans un cas typique d'une catastrophe qui va être instrumentalisée à des fins idéologiques pour essayer d'affaiblir l'autre camp. Et il faut dire quand même que par rapport à la souffrance des victimes, je trouve ça particulièrement indigne d'instrumentaliser ainsi une catastrophe, alors même que les incendies ne sont pas encore éteints à l'heure où nous enregistrons cette interview.
On parlait des théories conspirationnistes qui circulent à propos du déclenchement des incendies, mais il y a aussi beaucoup d'arguments à propos de la gestion de la crise. Pourquoi pas d'eau dans les réservoirs? Pourquoi pas assez de pompiers? Qu'est-ce que vous dites de tout ce qui circule à ce propos?
Les pompiers eux-mêmes reconnaissent qu'ils étaient mal préparés et qu'effectivement, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un incendie d'une telle ampleur se déclare à cette période de l'année et évidemment encore moins à ce que 2, 3, 4 ou 5 incendies se déclarent spontanément. Et donc, il y a sans doute eu, et là encore une fois, il y aura une enquête, j'imagine, qui fera la lumière sur les choses, il y a effectivement certaines bouches à incendie qui n'avaient pas d'eau ou dont le débit était très faible. Mais il faut rappeler que beaucoup de ces incendies étaient aussi sur les collines et que, par les lois de la physique, plus vous montez en altitude, moins la pression que vous allez avoir sur l'eau, y compris dans les bouches d'incendie, va être forte. Et donc, il est logique qu'en altitude, la pression dans les bouches à incendie soit plus faible. Et naturellement, on va voir toute une série de mouvements qui vont chercher à pointer les responsabilités des uns et des autres. On le voit systématiquement après chaque catastrophe. J'ai envie de dire qu'il faut bien garder en tête qu'une catastrophe, en tout cas dite naturelle, c'est toujours la rencontre d'un risque naturel avec une vulnérabilité qui, elle, est d'ordre économique, politique et social. Et que si l'on veut comprendre les raisons, si on veut expliquer la catastrophe, il faut évidemment considérer à la fois l'aléa, le risque, mais également la vulnérabilité. Et que parfois, pour des raisons politiques, on va avoir tendance uniquement à considérer un aspect, c'est-à-dire la vulnérabilité, et à pointer la responsabilité des uns et des autres. Dans d'autres cas, on va avoir tendance à regarder uniquement l'aléa, le risque, de manière à se défausser de potentielles responsabilités politiques.
Et dans le cas de la Californie, avec un gouverneur démocrate justement, comment expliquer cette impréparation? Est-ce que c'est parce que, en fait, l'opinion américaine, des deux côtés, finalement, ne prend pas suffisamment en compte les réalités du changement climatique?
Je pense qu'il faut rappeler d'abord que la Californie avait, et heureusement d'ailleurs, investi ces dernières années des milliards de dollars dans le renforcement des moyens aériens de lutte contre l'incendie. C'est ça qui a permis d'envoyer notamment des hélicoptères qui déversaient des produits retardants sur l'incendie. Le problème, c'est que les vents étaient tellement violents pendant les premiers jours de l'incendie que les hélicoptères ne pouvaient pas décoller. Et donc, ces moyens étaient là, mais ils étaient rendus inutilisables par la tempête. Et puis, peut-être, je dirais qu'il y a, sur les raisons de notre impréparation, sans doute un double problème. D'abord, le fait que nous croyons volontiers, dans les pays industrialisés, immunisés face aux risques naturels et plus singulièrement face aux impacts du changement climatique. On s'imagine que c'est toujours pour les autres et donc on a laissé se développer toute une série d'habitations dans des zones à risque. On peut parler des zones inondables en France. Là-bas, en Californie, à Los Angeles, c'est évidemment des habitations qui étaient véritablement en lisière de forêt, très proches de la végétation. L'autre problème, c'est que nous avons souvent tendance à nous préparer à des choses que nous connaissons déjà. Et donc, on va se dire peut-être que le changement climatique va renforcer certains phénomènes extrêmes que nous connaissons déjà. Et nous oublions qu'une des conséquences du changement climatique, c'est aussi précisément l'imprévisibilité des phénomènes et le fait que certains phénomènes extrêmes vont se produire soit à des moments où nous ne les attendons pas, soit à des endroits où nous ne les attendons pas, soit les deux.
Est-ce que vous pensez que les Américains vont tirer les leçons de cette catastrophe sur le phénomène réchauffement climatique?
Non, je ne pense pas du tout que ça va amener une prise de conscience des Américains. Je ne crois pas du tout qu'on va tirer la moindre leçon de cette catastrophe. Et je crois au contraire que Donald Trump va sortir renforcé de l'épisode. Particulièrement si les théories conspirationnistes fleurissent, Donald Trump aura beau jeu de dire que ça ne serait pas arrivé sous sa présidence et que c'est la faute des démocrates, c'est-à-dire la faute du camp politique adverse. Et en réalité, toutes les catastrophes nous montrent qu'après la catastrophe, il n'y a pas du tout un regain d'action contre le changement climatique, il n'y a pas du tout de phénomène de sensibilisation ou de prise de conscience qui se produit, d'abord parce que nous avons tendance à oublier très rapidement la catastrophe, y compris lorsque nous habitons dans une région qui était touchée par une catastrophe, et ensuite parce que ce discours sur la catastrophe, ce discours sur le changement climatique auprès des victimes de la catastrophe est volontiers perçu comme un discours culpabilisant et donc un discours qui va être rejeté, un discours qui va donner l'impression d'être utilisé par les politiques pour se défausser de leurs responsabilités. Et donc très souvent, après une catastrophe, les victimes vont vouloir chercher des coupables et le coupable, bien entendu, ça ne peut pas être le changement climatique. Et donc il ne faut certainement pas compter sur l'expérience de la catastrophe pour l'action climatique et toute une série d'études montrent qu'effectivement, l'exposition au risque, voire même l'expérience de la catastrophe, ne nous rend pas du tout plus enclins à lutter contre le changement climatique que du contraire.
Alors Joe Biden est à quelques jours de son départ de la Maison-Blanche. Il essaye d'imprimer sa marque en président responsable, se souciant d'apparaître comme un dirigeant qui a œuvré contre le réchauffement climatique. Du coup, il annonce, c'était la semaine dernière, il annonce l'interdiction de nouveaux forages pétroliers ou gaziers offshore, parce que la tendance pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est de diminuer la consommation d'hydrocarbures. Et voici ce que lui rétorque que Donald Trump.
L'interdiction des forages offshore, ça ne va pas durer. Je vais immédiatement revenir là-dessus, ce sera fait immédiatement. Et on va forer, chérie, forer. On va forer dans nombre d'autres endroits et le coût de l'énergie va carrément baisser. On va le ramener à des niveaux antérieurs et ça va faire baisser tout le reste.
Drill, baby, drill. Fort, chérie, fort. C'est une formule qu'on a entendue lors des meetings de campagne de Donald Trump. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration?
Qu'elle est assez dramatique pour la transition énergétique et climatique. Qu'elle est évidemment dramatique parce que si l'on reprend toute une série de forages pétroliers offshore, évidemment, ça va créer des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires et c'est évidemment en soi dommageable. Mais au-delà, ce qui est surtout dommageable dans cette déclaration, je dirais, c'est les revirements continuels du message politique sur la transition. Or, il faut savoir que pour que cette transition s'effectue, elle a besoin de signaux clairs et d'un engagement sur le long terme. C'est bien entendu cela qu'attendent les marchés et les investisseurs avant d'investir. Et donc, si le message qu'ils reçoivent, c'est que la politique climatique américaine change complètement tous les 4 ans, selon que le président est démocrate ou républicain, eh bien ça envoie un message d'attentisme et évidemment ça ne permet pas de faire les investissements qui sont nécessaires. Et donc, au-delà des émissions supplémentaires qui vont être générées par la politique de Donald Trump, qui sont évidemment dommageables en elles-mêmes. Peut-être le plus dommageable, ce sont ces revirements perpétuels en matière de politique climatique. Chaque revirement, chaque hésitation, chaque atermoiement est un signal d'immobilisme et d'incertitude qui est donné.
Ça, c'est dans les discours. Est-ce que dans les faits, on a observé ces dernières années et même durant le premier mandat de Donald Trump, une certaine résilience de la société américaine?
Oui, indéniablement, on a observé une certaine forme de résilience de la société américaine, à la fois parce que aujourd'hui, la transition, elle n'est pas seulement portée, et heureusement d'ailleurs par l'administration fédérale, mais elle est également portée par les entreprises, par la société civile et bien entendu par un grand nombre de municipalités et d'États fédérés, et on estime que l'administration fédérale ne contrôle qu'à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Et en fait, quand on regarde la trajectoire d'émissions des États-Unis, on ne voit pas véritablement d'inflexion entre le mandat de Donald Trump et celui de Joe Biden, par exemple. Joe Biden, et beaucoup d'auditeurs sont sans doute surpris de l'apprendre, a accordé beaucoup plus de licences d'exploitation pétrolière et gazière que Donald Trump au cours de son premier mandat. Jamais on n'avait accordé autant de licences d'exploitation pétrolière ou gazière que sous le mandat de Joe Biden, qui donc a un bilan un peu ambigu sur le changement climatique, puisqu'à son passif, évidemment l'octroi de ces très nombreuses licences, à son actif par contre, il y a ce plan de modernisation des infrastructures et de financement de la transition, l'Inflation Reduction Act, qui est appelé plan de lutte contre l'inflation, mais qui en réalité est un véritable plan climat qui injecte des milliards dans l'économie américaine pour sa modernisation et sa décarbonation. Un plan d'ailleurs sur lequel risque de revenir Donald Trump.
Est-ce que les Américains, s'ils ne prennent pas ce sujet à bras le corps, ça risque pas de décourager les autres pays sur la planète, les Chinois, les Européens, les pays émergents, qui se diront, bah, si les Américains le font pas, pourquoi nous, est-ce qu'on prendrait ces mesures qui nécessitent des investissements?
Bien entendu, le risque, surtout dans cette année 2025 particulière, qui marque les 10 ans de l'accord de Paris, et donc qui marque le moment où tout l'ensemble des pays signataires doivent revoir à la hausse leurs objectifs et leurs ambitions. Et donc, à la COP30, qui s'ouvrira à Belém, au Brésil, au mois de novembre, les différents pays doivent annoncer comment ils revoient à la hausse leurs objectifs. Et le risque, évidemment, c'est que beaucoup disent « Attendez, si les États-Unis font du surplace, voire régressent, je ne vais pas revoir à la hausse mes objectifs. Il est certain que ça risque de créer un phénomène de cercle vicieux, alors qu'à l'inverse, si les États-Unis annoncent revoir à la hausse leurs ambitions, ça peut créer évidemment un phénomène d'émulation. Donc ça, c'est évidemment un risque. Cela étant dit, il y a une transition énergétique qui va continuer à se poursuivre aux États-Unis, simplement parce qu'il y a des intérêts économiques derrière. Aujourd'hui, les investissements dans les énergies renouvelables sont particulièrement rentables et c'est quelque chose qui, évidemment, va continuer. Il faut savoir qu'en 2024, l'État américain où les énergies renouvelables se sont le plus développées, c'est au Texas. Le Texas est aujourd'hui un champion aux États-Unis de l'énergie éolienne et solaire. C'est pourtant un État qui a voté pour Donald Trump comme un seul homme.
Et les réseaux sociaux, quel est leur rôle selon vous? Parce que ce que l'on voit bien arriver aussi avec l'équipe Trump, c'est la lutte contre les fact-checkers, par exemple, qui sont désormais taxés de censeurs. Donc, une difficulté à faire passer le message, finalement, de la lutte contre le réchauffement climatique.
Je dirais qu'il y avait une promesse au départ des réseaux sociaux qui était celle d'une grande conversation mondiale où chacun aurait la parole. Mais malheureusement, cette promesse a été trahie parce que le fait de donner la parole à chacun revenait aussi à mettre en avant des discours de haine, revenait aussi à mettre en avant des discours de désinformation, et qu'on voit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux qui promettaient cette grande conversation mondiale suivent, et voire même parfois induisent, la fracturation et la polarisation de la société, où on voit désormais apparaître des réseaux sociaux que je vois davantage comme des chambres d'écho idéologiques, où les gens vont de plus en plus se retrouver entre eux. Et on voit bien la fissure qui est en train de se produire, notamment entre le réseau X, anciennement Twitter, qui va être de plus en plus réservé aux gens de droite et d'extrême droite, et la montée en puissance d'autres réseaux, comme Blue Sky, qui de plus en plus va être un réseau pour les gens de gauche. Et cette fracturation, cette polarisation de la société, elle se retrouve aussi dans ces espaces de réseaux sociaux que je vois davantage désormais comme des chambres d'écho qui vont confirmer une sorte d'idéologie, qui vont donner lieu à l'alimentation de toute une série de fake news également, et où on va finalement rester entre soi.
Alors justement, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'il ne faut pas que les scientifiques, les vulgarisateurs restent présents sur ces réseaux, là où circule la désinformation, pour essayer de faire le poids?
Personnellement, c'est le choix que je ferai, mais je sais que beaucoup de mes collègues vont quitter certains réseaux, vont quitter X. Je crains hélas qu'effectivement, abandonner ce réseau, même si je suis parfaitement conscient de tous les biais qu'il induit, de toutes les dérives qu'il a connues, de la manière dont l'algorithme est manipulé, effectivement, je crains que déserter ce réseau, effectivement, ne revienne à laisser le champ libre à tous ceux qui veulent propager des fake news, de la désinformation, des théories conspirationnistes, et qu'effectivement, si on déserte ce champ, on va se retrouver dans une société où chacun interagit au sein de sa bulle et où il n'y a plus aucune réalité commune, plus aucun socle d'information commun sur lequel on puisse construire ensemble.
Merci beaucoup François Gémen. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'écologie n'est pas un consensus, dépasser l'indignation, aux éditions Fayard. Je rappelle que vous enseignez à HEC, Sciences Po, la Sorbonne, que vous êtes spécialiste donc de la gouvernance du climat. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, historiquement tumultueuses, font l'objet de nouveaux remous, avec cette polémique autour d'influenceurs algériens dans le viseur de la justice française pour des appels à la violence sur les réseaux sociaux, un contexte bien évidemment propice à la désinformation. Nous retrouvons Kaofi Soui, journaliste à Abidjan pour AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Kaofi.
Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
Alors aujourd'hui, vous épinglez une vidéo relayée sur les réseaux sociaux de façon à jeter de l'huile sur le feu dans les relations entre la France et l'Algérie et puis aussi entre le Maroc et l'Algérie.
Oui Sophie, des publications largement diffusées sur Facebook, mais aussi X et TikTok dans une moindre mesure, affirme qu'un haut gradé de l'armée française a proposé d'envoyer la bombe nucléaire sur l'Algérie. Cette affirmation s'appuie sur la vidéo d'un homme en tenue militaire qui menace l'Algérie et assure avoir échangé à ce sujet avec le roi du Maroc.
Alors, qui est l'homme qui parle dans la vidéo et qui se dit porte-parole du roi du Maroc ?
L'homme qui évoque dans la vidéo le bombardement atomique de l'Algérie s'appelle Pascal Trefengui. Bien qu'il soit vêtu d'un uniforme militaire et présenté comme un haut gradé français, l'homme n'a aucun lien avec l'armée française. Le colonel Guillaume Vernet, porte-parole du chef d'état-major des armées françaises, a indiqué à AFP Factuel que Pascal Trefengui n'est pas un militaire français, le qualifiant même d'escroc notoire. Pour le colonel Vernet, cette vidéo de Pascal Trefengui tient du canular. Ce n'est pas la première fois que nous sommes contactés à propos de cette personne, a-t-il ajouté, précisant par ailleurs que la tenue que porte Pascal Trefengui dans la vidéo n'est pas un uniforme de l'armée française.
Alors on l'a bien compris, Gaofi, cet individu n'a vraiment rien à voir avec l'armée française, mais il se dit aussi porte-parole du roi du Maroc, et vous avez donc vérifié côté marocain.
Là encore, Sophie, cette vidéo est un tissu de mensonges. Il faut savoir que le poste de porte-parole du roi n'existe pas au Maroc. Il y a plutôt un porte-parole du palais royal et ce poste n'est pas occupé par Pascal Trefengui. Depuis 2012, l'historiographe du royaume chérifien Abdelhak Lamrini est le porte-parole du palais royal. Les propos tenus par Pascal Trefengui ne reflètent donc pas la position du roi du Maroc ni celle des armées françaises. Une recherche sur Internet nous permet de constater que Pascal Trefengui a écrit plusieurs livres ésotériques auto-édités et qu'il est par ailleurs impliqué notamment dans une arnaque au Brésil.
Alors qui relaye cette dernière vidéo avec des commentaires, tous les mêmes à la virgule près, des commentaires concernant l'Algérie, la France et le Maroc ?
La vidéo de Pascal Trefengui est relayée par des pages qui soutiennent pour beaucoup l'Alliance des États du Sahel, AES. Ces pages véhiculent régulièrement de fausses informations visant à stimuler le ressentiment à l'égard de la France et de son armée. En ce qui concerne le choix d'un sujet de désinformation en lien avec les relations tendues entre l'Algérie et le Maroc, il s'explique par le changement de la doctrine de la France sur le Sahara occidental, l'ex-colonie espagnole. Emmanuel Macron s'est aligné fin juillet 2024 sur l'Espagne et les États-Unis, estimant que l'avenir du Sahara occidental s'inscrivait dans le cadre de la souveraineté marocaine.
Merci Kaofi Souy de l'AFP Factuel. Alors cette infox, elle continue de se propager sur les différents réseaux, même si de nombreux internautes signalent la supercherie et la manipulation dans leurs commentaires. La nocivité de ce type de contenu, même complètement farfelu, c'est la saturation de l'espace informationnel par accumulation. Et tout cela vient évidemment attiser les tensions dans un contexte sensible. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, tout est sur le site RFI et puis sur l'application RFI Pure Radio. Enfin, vous pouvez aussi taper Info Vérif RFI dans un moteur de recherche pour retrouver tout ce travail de vérification. Pour la suite, je vous laisse avec Philippe Le Caplin. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sophie, effectivement à retrouver sur les applis et sur le site internet de Radio France Internationale.
RFI Soir, Philippe Le Caplin.
RFI Soir, dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Afrique Soir et ce sera avec vous Zéphirin Kouadio, l'actualité sur le continent africain. Au sommaire, tout d'abord, cet hommage rendu à Martinez Zogo au Cameroun.
Oui, le célèbre animateur radio dont on a appris la disparition le 17 janvier 2023 à Yaoundé, dont le corps a été retrouvé ensuite 5 jours plus tard dans une banlieue de la capitale camerounaise. Ses collègues de la radio Amplitude FM consacrent depuis ce matin l'essentiel de leur programme un hommage à leur ancien patron.
Cette question, le Togo va-t-il rejoindre l'alliance des États du Sahel formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger ?
Ce n'est pas impossible, selon le ministre togolais des Affaires étrangères. Robert Ducey l'a dit hier dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Vox Africa. Je rappelle que Lomé entretient de bonnes relations avec les trois pays sahéliens dirigés par des militaires qui ont décidé de quitter la CEDEAO. Le Togo a d'ailleurs joué un rôle de médiateur entre ces pays et d'autres États ouest africains.
Et puis cette arnaque qui fait couler beaucoup d'encre cette semaine en France et aux États-Unis.
Oui, des escrocs se faisant passer pour l'acteur Brad Pitt ont soutiré 800 000 euros à une Française, des escrocs qui seraient basés au Nigeria selon un site d'investigation spécialisé dans les arnaques 2.0. C'est le dossier d'Afrique Soir.
À tout à l'heure donc.